Bonsoir Elie Korchia.
Bonsoir.
Président du Consistoire central israélite de France, qui est l'une des principales instances juives. Vous avez signé une lettre ouverte à Emmanuel Macron ce week-end avec une vingtaine de personnalités comme Johann Sfar, Charlotte Gainsbourg, Arthur ou Philippe Torreton pour demander au président de ne pas reconnaître un État palestinien sans condition préalable. C'est ce qui était prévu au départ. Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait d'abord démanteler le Hamas et libérer tous les otages. Comment jugez-vous cette volte-face ?
Écoutez, on la regrette. Elle nous a bien évidemment déçus profondément en tant que Français juifs, puisque les conditions avaient été posées par le président de la République. Alors maintenant, vous savez, la déclaration du président de la République aura lieu ce soir. Donc moi, tant qu'elle n'a pas été prononcée, puisqu'elle aura lieu tout à l'heure, nous attendons les mots exactement qui vont être choisis par le président de la République.
Et vous attendez de voir s'il pose des conditions à la reconnaissance ?
Alors, on a bien compris qu'il y aura une reconnaissance. La question, c'est est-ce qu'il y aura des conditions qui accompagneront cette reconnaissance ? S'il y a un processus qui est annoncé, si le président de la République dit que c'est un processus que cette reconnaissance et qu'elle doit s'accompagner de conditions, et parlons très clairement des deux conditions essentielles sans lesquelles cette reconnaissance n'aura aucun sens, c'est la libération des otages qui doit être une condition et bien évidemment le démantèlement du Hamas. Puisque aujourd'hui, si on reconnaît un État palestinien qui est encore entre les mains du Hamas, puisque l'autorité palestinienne n'a plus d'autorité quasiment que le nom, et on sait combien elle est corrompue, combien elle est affaiblie. Si aujourd'hui la France reconnaît l'État palestinien, alors que le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza, qu'il détient encore 48 otages et qu'il prend en étau les Palestiniens et les Gazaouis, eh bien effectivement, il manquera ces deux conditions essentielles. C'est pour cela qu'on a demandé au président de la République qu'il respecte son engagement et que ces conditions soient clairement énoncées ce soir, en même temps que la reconnaissance de l'État palestinien.
A priori, on ne se dirige pas vers ça. C'est plutôt d'abord la reconnaissance et ensuite il attend des gages du côté des Palestiniens. Qu'est-ce qui vous pose problème quand même dans cette reconnaissance ? Est-ce que c'est le timing en pleine guerre ou alors la reconnaissance en elle-même ?
Non, je crois qu'on a un véritable problème déjà de temporalité, vous l'avez dit. Ce qui a particulièrement choqué, c'est effectivement que, alors que la guerre est en cours, alors que la pression internationale, si elle devait être faite, j'entendais Jean-Noël Barrot parler de grands jours pour la paix, si la France et les pays voulaient à l'international mettre la pression aujourd'hui pour qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est pas cette reconnaissance qui va changer quoi que ce soit demain matin sur place, sur la zone de guerre. La seule chose aujourd'hui qui pourrait avoir un impact direct, ce serait de faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages. Là, effectivement, si les otages étaient enfin libérés demain matin, le cessez-le-feu aurait lieu dans la journée. On le sait très bien. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a un problème de temporalité. Et ce qui nous fera très mal, mais je parle des Français juifs, même si on ne peut pas généraliser, mais en tant que citoyen aussi, ce qui nous fera très mal ce soir, disons-le très clairement, c'est que lorsque cette déclaration de reconnaissance sera faite par Emmanuel Macron à New York, vous verrez que les premiers qui féliciteront Emmanuel Macron, ce sera malheureusement le Hamas. Et ça, c'est très difficile alors que le Hamas a commis le premier pogrom du 21e siècle, le 7 octobre 2023, à travers le massacre qu'ils ont fait en Israël parmi la population civile. Et ça, c'est évidemment très compliqué, alors qu'on sait que le Hamas est encore au pouvoir à Gaza.
Restez avec nous, Elie Korchia. On va faire un point sur la reconnaissance de la Palestine par la communauté internationale. Nous sommes avec Thomas Pontillon de la cellule décryptage de France Info. Combien de pays, Thomas, reconnaissent aujourd'hui la Palestine ?
Eh bien, ils sont une majorité, environ 150 pays sur les 193 membres de l'ONU reconnaissent aujourd'hui l'État de Palestine, c'est presque les trois quarts des pays dans le monde. Si on remonte le temps, cette reconnaissance a démarré dès la fin des années 80, précisément en novembre 88, lorsque Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, a proclamé l'indépendance de la Palestine. Dans la foulée, une centaine de pays dans le monde vont reconnaître l'État palestinien. Ça concerne quasiment tous les pays d'Afrique, une grande partie de l'Asie et les pays soviétiques à l'époque. De nombreux pays d'Amérique du Sud suivront dans les années 2010, après le début du blocus de Gaza par Israël.
Parmi ces pays qui ont reconnu assez tôt l'État de la Palestine, il n'y a pas ou très peu de pays occidentaux.
Non, ni les États-Unis ni une grande partie de l'Union européenne n'ont franchi le pas pendant longtemps. Si on regarde l'UE, à part la Suède en 2014, seuls les anciens pays de l'URSS ont reconnu l'État palestinien, tout en remettant en cause cette reconnaissance pour certains. Par exemple, en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a déclaré encore récemment ne pas être d'accord avec cette décision prise dans les années 80.
Mais depuis la guerre à Gaza qui a suivi les attaques du 7 octobre, plusieurs pays européens ont changé de position.
Oui, dès les l'été dernier, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont décidé de reconnaître l'État de Palestine. La Slovénie a suivi dans la foulée. Aujourd'hui, c'est la France qui va rejoindre ce mouvement, tout comme d'autres pays européens. On peut citer le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique, Malte ou même ailleurs dans le monde, le Canada et l'Australie.
Et il y a toujours des pays qui ne reconnaissent pas la Palestine.
Oui, ils sont une petite cinquantaine. Parmi eux, il y a notamment Israël, le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, l'Allemagne et surtout les États-Unis. Washington a même critiqué ces dernières heures les annonces de reconnaissance de plusieurs pays. Reste que les États-Unis sont désormais le dernier des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas reconnaître l'État palestinien, puisque la Chine et la Russie l'ont déjà fait il y a longtemps et ils sont rejoints désormais par le Royaume-Uni et la France.
Merci beaucoup Thomas Pontillon, cellule décryptage de France Info. Élie Corchia, je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central israélite de France. On voit que plus de 150 pays ont déjà reconnu un État palestinien. C'est pas, selon vous, un courant mondial qui est dans l'ordre des choses aujourd'hui ?
Oui, vous l'avez dit qu'il y en a 150. Effectivement, depuis une trentaine d'années, il y a cette reconnaissance. On voit bien que ce n'est pas ce qui a changé ou modifié quoi que ce soit, malheureusement, sur le terrain et au Proche-Orient. Encore une fois, on reste de l'ordre du symbolique. Je note aussi que l'Allemagne, puisqu'on parle du couple franco-allemand, quand on parle de l'Europe aujourd'hui, eh bien, l'Allemagne est dans une autre temporalité que la France. Et l'Allemagne a fait savoir encore cet après-midi par une déclaration de son ministre des Affaires étrangères que si elle pouvait tout à fait comprendre la logique de la solution à deux États et d'une reconnaissance de la Palestine, ce n'était pas le moment et le processus aujourd'hui devait absolument avoir comme condition la fin du Hamas au pouvoir et la libération des otages. Donc encore une fois, ce n'est pas tellement le principe aujourd'hui qui est discuté, c'est de quel État de Palestine on parle. Est-ce qu'on parle de l'État de Palestine avec Gaza sous le contrôle encore du Hamas, des terroristes du Hamas, qui, soyons très clairs à votre antenne, le Hamas n'est pas dans une guerre ou une conquête de territoire. Ils s'en moquent complètement. Le Hamas, ce qu'il veut, c'est la destruction de l'État d'Israël. C'est la haine d'Israël qu'il veut voir disparaître. Et c'est lui qui a plongé toute la région dans le chaos en commettant ce massacre, en orchestrant ce massacre du 7 octobre, qui évidemment a ensuite poussé Israël à entrer en guerre.
Et je voudrais qu'on écoute ensemble un reportage tourné en Cisjordanie, où d'après les chiffres de l'ONU, 500 Palestiniens ont été attaqués par des colons israéliens depuis le début de l'année. Étienne Monin et Eric Audra se sont rendus dans le village de Sinjel.
Là, on est dans un grand bourg, en fait, qui est à quelques kilomètres de Ramallah. On est entouré par les champs d'oliviers et les collines. Et on vient d'arriver dans une maison où le numéro 2 de la municipalité veut nous montrer des colons qui sont en train de faire pression en fait sur les habitations.
Ils sont là-bas.
Les colons en question, là, ils sont trois, sont plutôt des jeunes. Il y en a un qui est sur un cheval, puis ils sont à 100 mètres et pour l'instant, ils ne bougent pas. Ils ne sont pas armés, ceux-là.
Ils ne sont pas armés, mais le responsable de la sécurité de la colonie, lui, est armé et il vise les enfants et les personnes.
Bar Fouka, il est vice-maire de Sinjel.
Là, ce qu'ils font, c'est de la provocation. Ils viennent, ils se rapprochent, ils nous prennent en photo et en vidéo. Ils attendent qu'on réagisse pour pouvoir appeler la police ou l'armée.
Ce que racontent ces Palestiniens, c'est que la pression des colons est maintenant permanente, que depuis 2 ans, il y a eu 40 attaques environ, et 4 Palestiniens ont été tués lors de certaines de ces attaques. Donc ça fait partie maintenant du paysage, et ils s'organisent pour essayer de répondre à cette pression.
Nous, au comité de défense de Sinjel, on n'a que des projecteurs pour voir ce qui se passe autour de nous et des téléphones portables pour prévenir les gens des attaques de colons.
Abdallah fait partie des groupes d'autodéfense. Ils ont été montés il y a 4 mois et il y a 200 personnes qui se mobilisent pour ça.
On n'a rien pour se protéger.
L'enjeu, en fait, c'est un enjeu de terre, de propriété. Les colons sont installés un peu plus haut sur des avant-postes, c'est-à-dire des baraquements, en fait. Ce sont des préfabriqués. Ils veulent mettre la main sur la terre, ils veulent inscrire au fond leur présence dans le paysage.
Entre nous et les colons, c'est une guerre existentielle. On a un conflit autour de cette terre. Malgré tout, on va rester et résister sur cette terre qu'on a héritée de nos parents et de nos grands-parents, jusqu'à ce que les colons et l'occupation soient vaincus.
Voilà pour ce reportage signé Étienne Monin, Éric Audra, Élie Corchia. Il y a cette crainte que Benjamin Netanyahou annexe la Cisjordanie très prochainement. Il poursuit sa politique de colonisation. Reconnaître un État palestinien, c'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est aussi pour l'empêcher d'aller plus loin. Vous le comprenez, ça ?
Écoutez, je pense que la démocratie israélienne, qui est une démocratie très vivante, a des débats internes très importants déjà sur ce sujet. Ce qu'il faut indiquer à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que malheureusement, quand on parle d'État palestinien, aujourd'hui, vous avez à Gaza, effectivement, le Hamas, donc une organisation terroriste, et de l'autre côté, vous avez aujourd'hui à Ramallah, on est censé avoir une autorité palestinienne, sauf qu'aujourd'hui, on le sait très bien, Mahmoud Abbas a 90 ans, il est à la tête d'une autorité complètement corrompue et en déliquescence totale, et tous les observateurs et ceux qui connaissent le sujet le savent très bien, il y a aujourd'hui une déliquescence de l'autorité palestinienne, donc évidemment ça n'aide pas, et les points de vue deviennent radicalement opposés, y compris en Cisjordanie, mais à la différence, c'est qu'en Israël, il y a des débats très importants en la matière. Et effectivement, si demain, il y avait déjà dans la partie de Gaza, pour en revenir à Gaza, puisque c'est là où cette guerre est aujourd'hui importante, elle n'est pas à Ramallah, elle est située à Gaza, si demain, il y avait déjà un cessez-le-feu à Gaza, et si déjà les otages pouvaient enfin être libérés, et qu'il y avait une reddition du Hamas, je pense que la fin de cette guerre à Gaza aurait nécessairement des implications sur toute la région, y compris sur le reste de la région.
Alors en France, une cinquantaine de mairies ont bravé l'interdiction de mettre un drapeau palestinien sur leur façade. Je vais vous faire réagir, Élie Korchia, après un détour par Corbeil-Essonne en région parisienne, où le maire d'hiver gauche va distribuer des bannières aux couleurs de la Palestine. Ça va commencer dans quelques minutes. Sandrine Etoa-Handek, est-ce qu'il y a du monde autour de vous ?
Écoutez Céline, il y a une petite centaine de personnes, hein, des familles, des enfants qui sont rassemblés sur le parvis de l'hôtel de ville de Corbeil-Essonne. Tous les visages sont tournés vers la façade de la mairie sur laquelle flottent quatre drapeaux en fait, hein, de gauche à droite le drapeau ukrainien, suivi du drapeau palestinien, le drapeau français et le drapeau européen. Le drapeau de la Palestine, ça fait un an et demi qu'il flotte sur la façade de la mairie à côté de celui de l'Ukraine, insiste le maire d'hiver gauche de Corbeil, Bruno Piriou, pour qui c'est, je cite, une marque de solidarité ordinaire avec deux peuples martyrisés. Et effectivement, dans quelques minutes, il va distribuer 1 000 000 de drapeaux aux habitants de Corbeil pour les associer à cette journée qu'il qualifie d'historique et de solidaire à quelques heures du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU pour reconnaître l'État palestinien, même si, selon l'élu, cette reconnaissance ne suffira pas. Eh bien, c'était important de marquer cet événement, de sensibiliser les habitants de Corbeil à ce jour historique.
Sandrine Etoa-Handek, merci. En direct de Corbeil-Essonne, une réaction, Élie Korchia, cet acte militant de la mairie de Corbeil et d'autres, toutes de gauche, vous le percevez comment ?
Avant d'être un acte militant, faudrait déjà rappeler à celles de ceux qui nous écoutent que c'est un acte illégal. Et l'avocat que je suis vous rappellera quand même qu'il est illégal d'avoir agi comme ils l'ont fait et que le ministère de l'Intérieur l'avait parfaitement rappelé par la voix du ministre Bruno Retailleau et que les préfets ont déjà rappelé la voix de l'État puisque ce sont les représentants de l'État dans chaque département et qu'ils ont rappelé que c'était illégal de mettre ce drapeau palestinien. 52 mairies, quand on voit le nombre de villes et de municipalités en France, soyons très clairs, c'est un nombre très faible. Ces quelques maires le font dans un souci, disons les choses clairement et sans embâge, c'est dans un souci électoraliste à quelques mois d'élections municipales. Et on voit bien cette porosité de certains maires de gauche vers l'extrême gauche afin d'essayer d'avoir un calcul manifestement électoraliste et clientéliste. Moi, je le regrette, mais je vois que l'immense majorité de nos mairies ont respecté la loi, n'ont pas voulu importer le conflit israélo-palestinien et cette guerre à Gaza contre le Hamas en France, parce que malheureusement, ce dont on souffre aujourd'hui et depuis ces derniers mois, c'est malheureusement cette importation, alors que nous sommes ici dans notre pays en France et que certains ont hystérisé le débat et se sont focalisés sur cette guerre malheureusement depuis ces derniers mois.
Merci.
Et ceux et celles qui ont voulu faire ça, c'est effectivement des personnes qui ont voulu le faire dans un but électoraliste.
Merci beaucoup Élie Korchia, président du Consistoire central israélite de France. Merci d'avoir accepté l'invitation du 17-20 de France Info.